Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous recevons Jacqueline Chabi. Jacqueline Chabi, bonjour.
Bonjour.
Alors, je le dis pour les auditeurs, vous êtes arabisante, sémitisante, agrégée d'arabe et doctoresse lettres. Vous êtes anthropologue du fait religieux et notamment, vous êtes historienne médiéviste. Vous êtes spécialiste des premiers temps de l'islam. Vous étiez aussi élève aussi bien de Régis Blacher que de Claude Quin et d'autres aussi. Nous sommes extrêmement heureux de vous avoir ce matin et merci de nous faire l'amitié de venir. Aujourd'hui, nous parlons davantage de votre dernier ouvrage, « Les trois piliers de l'islam ». Alors, nous avons compris le clin d'œil que vous faites pour les cinq piliers de l'islam. Mais là, les cinq piliers sont l'ossature de la pratique religieuse, de l'observance. Mais vous, vous parlez d'autres piliers. Et ce triptyque, ces trois volets, sont plutôt, je les annonce, mais vous aurez à les développer si vous voulez bien, celui de l'alliance, celui de la guidance et aussi le pilier du don. Alors, qu'est-ce que c'est que tout cela, Jacqueline Chabi?
Eh bien, en travaillant, je dirais, sur le terrain de ce qu'a été la société d'origine de l'islam, parce que quand on est historien, il faut toujours se donner un terrain, et si possible, un terrain qui a existé. Parce que si on n'a pas un terrain qui a existé réellement dans le passé, eh bien, on peut se fabriquer un terrain imaginaire. Donc il est extrêmement important, avant de commencer la lecture d'un texte comme le Coran, si on veut s'inscrire dans une perspective de lecture historique, c'est-à-dire qui renvoie au passé d'hommes qui ont réellement existé dans une société à une époque donnée, donc là on est en Arabie occidentale à la Mecque au début du 7e siècle, eh bien il faut se demander comment ces gens vivaient. Et c'est en me posant ce genre de questions sur un terrain réel que j'en suis arrivée à comprendre, au fil de nombreuses années, qu'il fallait revenir au fonctionnement de cette société. Et je me suis aperçue que dans les conditions de vie des hommes du 7e siècle en Arabie occidentale, qui n'est pas toute l'Arabie, qui est un petit bout isolé de l'Arabie, puisque l'Arabie c'est énorme, c'est 2000 kilomètres de long et plus de 1500 de large, eh bien, dans cette petite partie occidentale de l'Arabie, il y avait un mode de vie très particulier et qui était un mode de vie, je dirais, particulièrement difficile parce que on est sur un terrain qui est soumis à des contraintes physiques, des contraintes naturelles, des contraintes géographiques énormes du fait de l'aridité du climat, du fait que c'est une zone volcanique, ce qu'on ignore assez souvent. On voit les volcans de l'autre côté de la mer Rouge, mais du côté arabique, on ne les voit pas.
Donc tout ce contexte-là va influer, interférer dans la compréhension même, c'est ce qui nous intéresse, du livre révélé, parce que vous êtes pour une lecture anthropologique du Coran. Or, le Coran ne parle pas de lui-même, il n'agit pas de lui-même. C'est une parole attribuée au calife Ali, mais ce sont les hommes qui le font parler.
Or, ils ne le font parler. Au calife Ali, pourquoi dites-vous le calife Ali?
Ali, le gendre et cousin du prophète.
Je ne serais pas d'accord avec vous. Je dirais que c'est une parole attribuée au prophète qui est supposée la recevoir de la divinité.
Ah, j'entends le fait de dire que le Coran ne parle pas de lui-même, mais ce sont les hommes qui le font parler.
Oui.
C'est une parole, mais je le dis sous votre contrôle,
oui,
attribuée au calife Ali. Je ne parle pas de l'inspiration ou de la révélation en tant que telle. C'est le calife Ali plus tard, quand il a vu les différentes exégèses, les différents commentaires, qui avait dit « Oh, écoutez, le Coran ne parle pas de lui-même,
oui,
ce sont les hommes qui le font parler ». Ça, c'est la parole d'Ali. Mais, et vous-même avez ajouté à juste raison que selon la psyché et la compréhension des êtres en les relativisant à leur contexte.
Alors là, si vous voulez, vous faites intervenir la parole de Ali, qui est une parole postérieure. Donc, en tant qu'historienne, je vous dirais attention. Nous devons mettre le texte, non pas face à une parole postérieure présumée, mais face aux hommes de son temps et à ce qu'on peut penser avoir été les hommes de son temps, de ce temps et la manière dont ils vivaient. Justement, ma démarche a consisté à écarter toute parole supposée postérieure, parce qu'il y a un risque énorme du point de vue de l'histoire, c'est celui de l'anachronisme et c'est celui de l'extrapolation.
Et du parachronisme, c'est le fait de projeter sur une période donnée des compréhensions, une vision du monde d'une autre période aussi. Vous avez raison. Alors, vous militez, et non sans raison là aussi, à ce que le Coran, au lieu d'avoir une lecture confessante, une approche croyante et une description plutôt confessionnelle, mais faire du livre un texte objet du savoir.
Effectivement, je pense que en tant qu'historienne, je ne me situe pas du tout dans une perspective confessante, une perspective religieuse. Le travail d'un historien, c'est de remettre les textes, je dirais, à leur place, ou plutôt le texte et le texte de ceux qui se l'approprient selon les époques. Et le choix que j'ai fait, c'est d'essayer de comprendre comment le texte a pu parler aux premiers hommes qui l'ont entendu, c'est-à-dire que je me situe sur une strate la plus ancienne pour essayer de comprendre quel écho le texte, cette parole a pu avoir par rapport aux hommes de son temps. Mais cela dit, on pourrait faire la même chose pour les périodes postérieures.
Oui, et c'est pour ça que vous dites toujours, dans votre ouvrage édité au Seuil, que l'islam s'est raconté, en réalité ce sont les musulmans qui se sont raconté une histoire, finalement encombrée d'interdits, de tabous, alors que pour la plupart de ces considérations sont de vaines ou de factures mythiques.
Si vous voulez, il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Je dirais que c'est la production originelle de cette parole, qui s'adresse à une société réelle. Et donc, c'est pourquoi j'aboutis au fonctionnement de cette société réelle, cette parole s'adapte aux conditions de vie des hommes de cette société. Mais à partir du moment où cette parole voyage et arrive dans des sociétés postérieures, il est évident que les hommes d'après ne vivent pas comme vivaient les Arabes du 7e siècle en Arabie, dans cette zone de l'Arabie, et qu'ils vont avoir des représentations et des compréhensions du texte qui sont les leurs et qui répondent aux enjeux de leur époque.
Le livre est unique, les sens sont multiples, ces paroles qui ont été entendues, vous dites et vous pensez que ce n'est pas un texte écrit, c'est plus une oralité fixée.
Je pense effectivement qu'on est au début du 7e siècle dans cette zone de l'Arabie, dans un milieu humain, où les paroles importantes se disent dans l'oralité. D'ailleurs, on n'a pas trouvé pratiquement d'inscription de textes longs dans cette zone de l'Arabie, alors que si vous comparez avec ce qu'on peut être tenté de comparer, c'est-à-dire le Proche-Orient, la vallée du Tigre et de l'Euphrate, là, vous avez des milliers de tablettes inscrites. Donc, on est dans un autre contexte, dans un autre milieu en Arabie. C'est l'oralité qui domine. Mais alors, le problème qui se pose, c'est comment faire que cette oralité soit fidèle à un message entendu s'il s'agit d'une révélation ?
Alors, de ce point de vue-là, peut-on dire qu'il faut distinguer les deux moments ? Je dis le moment au sens hegelien du terme, un temps fort, un temps de rupture, le moment coranique, du vivant même du prophète, et le temps islamique qui est venu un peu plus tard et qui est une construction humaine.
Je pense effectivement que c'est ce qu'il faut faire, et pour comprendre comment la pensée islamique a pu évoluer par la suite, il est extrêmement important d'avoir une idée précise du sens premier. Non pas pour dire que c'est le sens vrai, c'était le sens vrai pour les hommes du 7e siècle, mais pour voir comment les notions, les images ont évolué par la suite.
Et ça, on le voit davantage, non pas dans l'exégèse du Coran en tant que tel, mais surtout dans la ce que d'aucuns présentent comme étant une légende dorée, c'est-à-dire la biographie, la géographie, le curriculum vitae du prophète, la fameuse Sira, qui a été finalement produite 2 siècles plus tard.
Alors effectivement, on peut utiliser ces textes postérieurs, ce que nous appelons les sources primaires, mais ces sources, par rapport à la première période, elles sont effectivement décalées. Disons que la production la plus ancienne de la Sira, c'est après l'arrivée au pouvoir des Abbassides. C'est probablement d'ailleurs une commande officielle qui va servir aux Abbassides à se mettre en valeur par rapport à ceux de l'époque qui leur disputent le pouvoir, c'est-à-dire leurs propres cousins, les descendants de Hassan, qui se révoltent du temps du deuxième calife abbasside. Et la Sira, c'est à la fois la mise en évidence de la figure triomphante du prophète Mahomet, mais c'est en même temps, je dirais, l'oncle Abbas est embarqué dans cette histoire.
Dans ces querelles politiques, et pour peut-être calmer le rebelle Hassan, vous donnez une exégèse ou un commentaire en tout cas du verset qui parle de la prédication mohammedienne, d'abord pour sa famille, pour son clan. Dans un cas, on a répondu présent et on a adhéré, même si c'est tardivement, à cette prédication, et dans l'autre, non. C'est-à-dire, dans un cas, c'est Abbas, son oncle, et dans l'autre, c'est Abu Talib. Et c'était simplement pour faire taire, 2 siècles plus tard, les querelles là, en arguant du fait que l'ancêtre de l'un a adhéré à la mission prophétique et pas l'ancêtre de l'autre.
Alors, il y a une querelle à l'époque de cette révolte qui date du deuxième calife, qui est tout à fait étonnante, avec une correspondance supposée échangée entre le rebelle descendant de Hassan, qui s'appelle Mohamed Nafs Zakiya, Mohamed l'âme pure, et le calife El-Mansour. Et alors là, c'est une querelle tout à fait étonnante parce que on n'est pas dans l'islam, on est dans la tribalité, puisque le calife répond à la revendication de légitimité de son adversaire, mais moi, je suis le descendant de la lignée mâle, et toi, tu es le descendant d'une femme, c'est-à-dire de Fatima. Qu'est-ce que les femmes ont à voir en politique ? Donc là, je dirais, on est à la fois loin de la période première, mais en même temps, c'est une remontée de tribalisme qui arrive à ce moment-là et qui justifie la position politique du calife.
J'ai délibérément pris cet exemple-là, c'est pour voir comment on fait plier le texte, ou on tire argument, notamment de passages révélés, pour asseoir ou aller dans le sens souhaité ou pas, en tout cas dans des querelles politique, voire politicienne.
Il ne faut jamais perdre de vue les enjeux d'une époque, que ce soit les enjeux matériels, les enjeux politiques, les enjeux idéologiques. Et je dirais que les enjeux de la Sira ne sont pas du tout ceux du premier siècle de l'islam, ne sont pas du tout ceux du début du 7e siècle, où on était dans un milieu tribal, où la question, la principale question, c'était de trouver un allié divin, qui soit le protecteur de la tribu et qui assure la prospérité et l'avenir de la tribu, puisqu'on était dans, je dirais, une économie qu'on pourrait appeler quasiment une économie de survie.
Je rappelle pour nos amis auditeurs que la Sira, c'est un terme arabe qui veut dire à la fois vie, biographie, curriculum vitae,
Manière de vivre aussi.
Une manière de vivre aussi. Et quand il s'agit de la Siras, il s'agit de la vie du prophète. Alors, vous avez évoqué l'alliance. Donc, c'est le premier panneau, le premier volet de votre triptyque. Et donc, votre grille de lecture, déjà, à propos de cette alliance entre un dieu qui, finalement, s'allie, contracte alliance, et l'alliance, elle est dans les deux côtés, dans les deux sens.
Absolument. Une alliance ne va pas sans contrepartie. Mais cela dit, si je peux revenir un peu sur mon approche, eh bien, ça n'est pas l'alliance que j'ai vue en premier. J'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a à peu près 25 ans. Et ce qui m'est apparu en premier, c'est une autre thématique, c'est celle de la guidance. Et je me suis aperçue à l'époque, c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux, que en Arabie, le principal problème, contrairement au Proche-Orient, ça n'était pas d'avoir un Dieu administrateur, je dirais un Dieu pasteur, mais un Dieu guide. Et j'avais fait à l'époque d'ailleurs une communication devant une société savante, devant la société asiatique, sur le Dieu pasteur et le Dieu guide, en disant en Arabie, attention, il y a une frontière d'imaginaire, nous sommes en présence d'une guidance. Pourquoi une guidance ? Parce que quand on part en Arabie, il faut absolument arriver au bout de la route, parce que si on s'égare, tous les chemins ne mènent pas à Rome en Arabie, il n'y en a qu'un seul. Si on s'égare, on risque la mort.
Oui. Moi, j'ai commencé par poser la question sur l'alliance, en attendant tout à l'heure développer la guidance, parce que c'est l'ordre qui s'est présenté.
Mais je vais revenir sur l'alliance.
Dans votre ouvrage. Mais permettez-moi de rester encore sur la méthode en tant que telle. Autant la lecture ou l'approche croyante voudrait adhérer dans le détail, s'il manque telle ou telle chose, c'est une adhésion de foi qui les fait mettre en avant. En revanche, l'historien et l'historienne que vous êtes, quand il y a des éléments qui manquent, alors qu'est-ce que vous faites ? Il y a une interpolation, quelle est votre investigation ?
Alors je dirais que l'historien interroge. Il répond quand il a des éléments pour répondre. S'il n'a pas d'éléments, il pose éventuellement des hypothèses, où il s'arrête. Il laisse la question ouverte en attendant de trouver plus tard ou de comprendre mieux plus tard. Mais il ne cherche pas à tout prix une réponse s'il n'en a pas les éléments. C'est la prudence historienne. On ne va pas plus loin que ce qui nous est donné dans ce que l'on ramasse comme éléments sur le terrain qu'on a choisi. Pour revenir à l'alliance que j'ai comprise également, eh bien, l'alliance, en fait, c'est la reproduction du système social des tribus, puisque le monde tribal ne vit pas sous la contrainte d'un État dominateur, le monde tribal vit politiquement dans le registre de l'alliance. Et ce registre de l'alliance se répercute sur les rapports avec le surnaturel. C'est-à-dire que, je dirais, la politique du surnaturel, on pourrait dire ça, doit s'inscrire, de même que dans la socialité, doit s'inscrire dans le registre de l'alliance.
Il y a la nature et la surnature, et donc un bédouin pris isolément le soir dans la nuit, en entendant des voix, eh bien, il faudrait amadouer le courroux des roules, des djinns, des farfadets, des...
Alors, le bédouin dans le désert, alors, cela dit, Mahomet et les Mécois ne sont pas des bédouins.
Ils sont citadins
Ce sont des citadins sédentaires, mais qui vivent une situation un peu particulière, puisque, il faut le souligner fortement, la Mecque n'est pas une oasis. On a pu l'écrire parfois, c'est complètement faux, et justement, la sacralité de la Mecque tient au fait improbable qu'on puisse vivre auprès d'un point d'eau, dans un espace qui n'est pas oasien. Donc, je reviens à ce que vous disiez des bédouins. Le bédouin, dans le désert, la nuit, il s'imagine que tout alentour, le désert est plein de présences invisibles. Et le bédouin est très prudent, c'est-à-dire que le bédouin écoute. Le bédouin ne cherche pas à voir. Quand il entend des voix, il cherche à savoir de qui il s'agit. Parce que si c'est un djinn, est-ce un djinn favorable ou un djinn défavorable ? Et si c'est un homme, c'est la même chose. Parce que est-ce que celui qu'on entend parler, est-ce que c'est quelqu'un avec lequel j'ai une querelle pendante ? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait s'attaquer à moi pour une histoire de talion ? Donc le bédouin est toujours en écoute.
Le bédouin est toujours en écoute. C'est pour ça que si ça devait être plutôt une belligérance potentielle, il faut la régler ou...
Il faut s'enfuir.
Oui, il faut s'enfuir, ou en tout cas, il faut
s'y
préparer.
Sans bruit.
Je ne résiste pas à revenir à la présentation de la Mecque. C'est une vallée qui n'a pas beaucoup de culture, mais c'est aussi... Sans culture même.
C'est dans le Coran.
Et je voulais paraphraser le passage coranique, mais c'est vrai que c'est dans le Coran. Et c'est aussi le lieu d'affluent qui doit être quand ils deviennent torrentiels par moment.
Alors, dans le Coran de période médinoise, la fondation de la Mecque est attribuée à Abraham. Je dirais que c'est un... Pour un historien, c'est un mythe coranique parce que cette fondation abrahamique de la Kaaba, sur ordre de Dieu, avec la permission de Dieu, eh bien, ça n'intervient que tardivement dans le Coran. dans les parties anciennes du Coran, il n'est pas du tout question de fondation abrahamique. Donc, du point de vue d'un historien, parce qu'un historien fait de la géographie aussi, on considère la configuration du terrain mécois. Et le terrain mécois, eh bien, en ce qui concerne la Kaaba, effectivement, c'est ce que le Coran appelle un batn, c'est-à-dire un bas-fond, le ventre d'un terrain. C'est là où se collectent les eaux de plusieurs vallées qui convergent. Et c'est pourquoi, dans cet espace aride et noir, plein de roches volcaniques, eh bien, on a trouvé un point d'eau pérenne. Et alors, ce qu'on ne sait pas forcément, là, je vous invite à regarder des photos sur Internet de 1941. Il y a eu une inondation en 1941 où on voit des gens qui sont là nager autour de la Kaaba. C'est-à-dire que le régime des Oued est un régime qui peut être extrêmement violent quand il pleut. Et cette submersion qui arrivait de temps en temps, je pense que les Séoudiens ont essayé de réguler tout ça, je ne sais pas s'ils ont réussi, il y a encore de l'eau qui arrive autour de la Kaaba, peut-être pas autant qu'en 1941, mais cette submersion en fait est considérée comme une bénédiction, puisque ça sert à laisser le point d'eau en eau constamment.
Et à ce sujet, les pluies, qu'elles soient providentielles et parfois torrentielles ou pas, sont aussi appelées une descente, tout comme la révélation.
Je dirais que c'est la pluie qui induit la représentation de la descente de la révélation, et pas le contraire. C'est-à-dire que l'historien va partir de l'image du terrain pour comprendre, je dirais, le Coran dans son époque première. Il faut toujours essayer de le ramener à son terrain.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Jacqueline Chabi. Je le dis pour les amis auditeurs, vous êtes agrégée d'arabe, arabisante et sémitisante. Vous êtes professeur honoraire des universités. Et là, nous discutons à propos de votre dernier ouvrage paru aux éditions du Seuil, Les trois piliers de l'islam pour une lecture anthropologique du Coran. Trois piliers de l'islam, ce ne sont pas les cinq piliers de l'islam, mais plutôt trois. Nous avons commencé à aborder le premier, c'est-à-dire celui de l'alliance. Nous aurons encore à dire un ou deux mots là-dessus, enfin, comme tant que vous le souhaitez. Mais peut-être un mot sur les traditionnistes, ceux qui ont collecté les aphorismes, les maximes, les paroles, les dires, les propos du prophète. Et là aussi, vous pensez que d'abord, on est à la fin du 9e siècle, 870 pour l'un, 875 pour l'autre, 892 pour le troisième. Donc, il y a une distance dans le temps et que dans ces recueils dits authentifiés, il y a beaucoup de choses à revoir.
Le problème de ce qu'on appelle le hadith. Le mot hadith, d'ailleurs, on le trouve dans le Coran, mais pas du tout avec le sens qu'on va lui donner à la fin du 9e siècle ou au 10e siècle.
Ce qui est advenu, et c'est aussi un récit.
Le hadith, ça vient d'un verbe qui veut dire survenir, advenir, réellement. C'est-à-dire que quand on parle de hadith, on induit qu'on dit la vérité. Dans le Coran, le mot intervient pour raconter des récits du passé, les récits bibliques du passé. Par exemple, vous avez une expression comme « As-tu entendu le récit de Moïse ?» ou « L'as-tu entendu le récit de Noé ?» Et le fait qu'on utilise le mot « hadith » induit qu'on répercute quelque chose qui s'est réellement passé. Donc plus tard, ce mot va être utilisé pour le prophète lui-même, qui sera devenu, 2 siècles et demi à 3 siècles après, une figure exemplaire, une figure à imiter, ce que, humainement, il ne pouvait être de son temps pour les hommes de son temps. C'est-à-dire qu'un homme de tribu ne prend pas un autre pour modèle, même si c'est un homme inspiré. Donc là, on est, je dirais, dans une distance avec la société première. On est dans des sociétés postérieures qui n'ont rien à voir de par leur origine culturelle avec l'Arabie, puisque les grands collecteurs de hadith, ce sont des Iraniens de l'Iran oriental, de l'Asie centrale ou de l'actuel Afghanistan. Et ces populations qui se sont ralliées à l'islam, qui se sont converties seulement à partir du 9e siècle. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que pendant le premier siècle de l'islam, on ne pouvait devenir musulman qu'en entrant dans une tribu. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Et donc, je dirais que le ralliement à l'islam, j'ose même pas dire la conversion, se faisait au compte-gouttes. Et c'est seulement avec les Abbassides que cet obstacle disparaît, parce que les Abbassides sortent politiquement du système tribal.
Oui, deux choses. La première, ces collecteurs, quand ils ont voulu rassembler, colliger toutes ces paroles, ont dit ou ont fait savoir qu'ils ont un peu arpenté l'Empire à la recherche de savants dignes de confiance, tiqat, comme vous dites si bien. C'est en soi une question sur la méthode en tant que telle, mais en rebondissant sur ce que vous dites là tout de suite, c'est que les premiers temps, on embrassait la tradition religieuse islamique avec la caution d'une tribu. Alors comment expliquer les fameux conflits et même guerres dites d'apostasie ?
Je pense que l'apostasie est un terme impropre. Dans la mesure où, dans l'Arabie tribale, toute alliance est irrévocable si on n'avait pas intérêt à rester dans cette alliance. C'est-à-dire que ce qui comptait, c'était pas le ralliement à une foi. Le religieux ne se vivait pas de la même façon qu'après, dans les sociétés postérieures. Le religieux devait permettre au groupe humain de vivre et d'avoir un avenir. Et si ce groupe humain considérait que l'alliance entre les hommes et l'alliance avec un dieu ne le satisfaisait pas, il pouvait sortir de cette alliance à la condition de l'annoncer publiquement. Vous avez d'ailleurs le terme « bara'a » dans le Coran qui signifie cela exactement.
Qui donnera plus tard, ou dans une autre acception, une notion d'innocence. Ou...
Voilà.
Et qui n'était pas dans sa première acception. Encore peut-être, nous allons nous appesantir quelques instants sur la notion d'alliance. Mais vous dites aussi que, et vous ne suivez pas quelqu'un comme Christophe Luxemburg en disant que la révélation coranique avait préexisté dans des textes syro-araméens.
Absolument pas. Je pense que toute la tendance actuelle, qui est très, très bien représentée dans le monde, qui considère qu'il y a un substrat écrit de lectionnaire syro-araméen à la parole coranique, ne prend pas en compte ce qu'a été le terrain anthropologique du Coran et le terrain humain du Coran. Et je pense qu'en ignorant cette dimension humaine, cette dimension de réalité humaine, les chercheurs qui s'engagent dans cette voie se construisent un terrain imaginaire. Et quand on se construit un terrain imaginaire, eh bien, il suffit d'y mettre de la logique, il suffit d'y mettre de la cohérence, mais on n'a aucun point d'accroche dans le réel et on peut dire n'importe quoi.
Et de ce point de vue-là, comment expliquez-vous que le tout premier calife Boubakr, a livré bataille à ceux qui avaient refusé de s'acquitter de l'aumône dite légale ou de l'impôt ?
Je ne dirais pas que c'était un simple problème d'impôt, c'était un problème politique. Mohammed, avant sa mort, n'était pas le chef d'un État, c'était le chef d'une confédération tribale. Enfin, le chef, c'est beaucoup dire. Peut-être qu'on surévalue d'ailleurs son rôle. Il y avait un ensemble de tribus qui s'étaient ralliées et dans lesquelles Mohammed, homme de tribu et homme politique, avait joué un rôle important. Et donc ses successeurs et la grande affaire qu'a réussi Mohammed à la fin de sa vie, c'est réunir les deux villes de la Mecque et Médine. C'était son objectif, réussir à faire que sa ville d'origine, qu'il avait bannie en refusant d'écouter sa parole, entre dans la bonne alliance, l'alliance de son Dieu protecteur, le seul efficace, parce que c'était un Dieu créateur. Et ça, c'était une réussite politique formidable. et les successeurs ont voulu préserver cette unité politique. Est-ce que c'était le religieux qui était au premier plan ou est-ce que c'était le socialement tribal qui était au premier temps? C'est une question. Donc, je ne parlerai pas d'apostasie. Je dirais que ces tribus, quelques petites tribus de l'Arabie occidentale, avaient voulu se dégager de l'alliance qu'ils avaient conclue avec Mohammed, parce qu'ils avaient confiance en lui. Ils n'avaient peut-être pas assez confiance en Abou Bakr. Alors, Abou Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une petite démonstration de force. Et les tribus, quand on leur montre qu'on est plus fort, eh bien, elles se rallient. Par contre, en ce qui concerne l'Arabie centrale, l'Arabie centrale n'avait jamais été ralliée, n'était jamais entrée dans l'alliance des Mekois et des Médinois. Et donc là, c'est une action de razzia contre ces tribus qui a eu lieu. Il n'est absolument pas question d'apostasie.
Conformément à ce qui se passait à ce moment-là, puisque la razzia n'était pas dépréciative.
La razzia, c'était, je dirais, un fait d'expansion.
Il y a un fait aussi important dans cette approche anthropologique de la révélation coranique, c'est que le prophète de l'islam était, les tout premiers temps de sa prédication, plutôt un avertisseur pour son propre clan, pour sa propre tribu. Ce n'est qu'à la fin de son ministère apostolique qu'il avait cette vocation plutôt universelle. Et encore.
Universelle, ne parlez pas d'universalité à un historien.
Oui, mais voilà, justement.
L'universalité, c'est une notion idéologique. Le prophète, dans sa tribu, je dirais que Mohammed, dans sa tribu, qui n'était pas particulièrement favorisé des dieux, puisqu'il était orphelin, ça le Coran le dit, et que, pour son malheur, quand il s'est marié, quand il a été épousé par une femme puissante de sa tribu, il n'a pas eu de fils survivant. D'ailleurs, c'est dit dans le Coran d'une façon violente, dans la sourate 108.
C'est là où il est présenté comme amputé, pour ne pas dire un autre mot.
Et, oui, absolument. Celui qui n'a pas réussi à avoir des fils.
Bon. Il
n'a pas de descendance mâle, donc son nom ne survivra pas. Et la question, c'est ça. Donc cet homme qui avait, des problèmes de statut dans sa tribu, reçoit cette inspiration. Et cette inspiration lui dit quoi? Elle lui dit que sa tribu va dans la mauvaise direction et qu'il faut trouver la bonne alliance parce que cette tribu rend culte à des divinités extérieures à la cité au lieu de se concentrer sur la divinité protectrice de la cité que le Coran dans la sourate 106 appelle le seigneur de cette demeure. Alors de grâce, quand on parle de la Kaaba, ne parlons pas de temple. La Kaaba n'est pas un temple. La Kaaba, c'est un lieu sacré, avec un point d'eau, avec des pierres sacrées qu'on appelle des bétils. Le bétil, c'est la demeure de Dieu. Ce que dit la sourate 106, elle dit « Rendez culte à celui qui vous protège vraiment, votre vrai protecteur. C'est le Seigneur de cette demeure, de ce bayt, et c'est lui qui vous préserve de la famine. » Alors pourquoi le Coran dit-il ça? Parce que quand on est à la Mecque, pour manger, il faut aller chercher la nourriture à l'extérieur. Il faut aller dans la montagne de Ta'if, à 70 km, ou il faut aller vers Jeddah, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Wadi Fatima, qui est également très loin. Donc, les Mekois étaient tout le temps en situation précaire, je dirais, du point de vue de leurs moyens d'existence. Et donc, respectez enfin, rendez culte à ce Dieu et pas aux autres qui sont à l'extérieur de la cité.
Celui qui vous préserve de la crainte et de la peur et celui qui vous nourrit.
Alors la peur des attaques, exactement. La peur des razzias et celui qui vous nourrit, effectivement. Et là, on rencontre le don.
Pour revenir à la demeure de Dieu, qui n'est pas un temple, dites-vous, d'abord au niveau de sa propre architecture qui était très sommaire, une sorte de quadrilatère, pas encore cubique, ou sous forme cubique, mais sans toit.
Alors,
dans un
premier temps. Dirais que cette forme est extrêmement bizarre, effectivement. Les textes, alors, on a parlé des sources postérieures tout à l'heure, on peut utiliser les sources postérieures à condition d'en faire une lecture historienne et critique. On ne doit pas les négliger, on doit prendre ce qui s'accorde avec ce qu'on sait du terrain premier. On trouve des choses dans les sources postérieures, mais il faut les débarrasser de tous les mythes qui s'y sont surajoutés. Eh bien, dans ces textes postérieurs, du point de vue de la matérialité de la Kaaba, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit effectivement que c'est un mur qui porte des pierres sacrées. Or, ce mur, ce quadrilatère, il est orienté selon les points cardinaux. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous avez un angle qui pointe vers l'est, et c'est là que se trouve la pierre noire. Et vous avez un angle qui pointe vers le sud, et c'est là que se trouve la deuxième pierre qu'on oublie trop souvent aujourd'hui, qui pointe vers le Yémen. Vu de la Mecque, le Yémen, c'est une terre de cocagne. Parce que le Yémen, c'est une montagne arrosée par la mousson d'été dans une partie de son territoire. Donc c'est une terre de sédentarité, d'agriculture, presque un espace de paradis. Et les autres angles pointent vers le nord et vers l'ouest. Or, si vous considérez le culte actuel de la Kaaba, que fait-on autour de la Kaaba ? On part de l'angle est. L'angle est, du point de vue des astres, c'est la direction du soleil levant. On part de l'angle du soleil levant. Et qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas vers le sud. Le soleil, il part de l'est, il va vers le sud. Là, on va vers le nord. Alors, on nous dit on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce n'est pas ça qu'il faut dire. On va dans le sens inverse de la course du soleil. C'est-à-dire qu'on a très probablement une relation au soleil. Et le soleil en Arabie, ça n'est pas le soleil du Proche-Orient, ça n'est pas le soleil des Grecs, ça n'est pas Apollon. Le soleil en Arabie, c'est une puissance mortelle. C'est une puissance féminine, mortelle, une espèce de démon. Et c'est comme si on voulait tromper le soleil en commençant un circuit rituel. Et au bout du septième trajet, et ça c'était le culte antérieur qu'on reproduit aujourd'hui, mais en oubliant ces arrière-plans anthropologiques primitifs, après ces sept tournées, on fait de nouveau sept trajets. Et au septième trajet, ce qui se passait durant la période prophétique elle-même, qui n'a cessé qu'à la fin de la période prophétique, c'est qu'on faisait un sacrifice sur le site mécois lui-même. On faisait le sacrifice sur Marwa. Et le pèlerinage des mécois s'arrêtait là. Et ce pèlerinage, il aurait eu lieu quand ? Ce pèlerinage du seigneur de la demeure. Donc, eh bien, il y aurait eu lieu à l'équinoxe de printemps, au mois de Rajab. Rajab, c'était le septième mois du calendrier lunisolaire, parce que l'année commençait à l'équinoxe d'automne.
Ces fameuses circumambulations, ou ces précessions, une précession étant une procession circulaire, commencent à partir du point est. Et vous dites là aussi que quand les Arabes regardaient le soleil levant, le Yémen est sur leur droite.
Absolument.
Donc c'est la dextre. Et comme le Yémen est aussi un lieu d'Arabie heureuse, l'Arabia Eudaimon des Grecs ou l'Arabia Félix des Latins, c'est aussi le côté droit qui est préférable à la sinistre, au côté gauche. Donc, ce qui explique le nom aussi.
C'est le côté du serment. C'est le côté de l'engagement, c'est effectivement le côté du bonheur. Il faut revenir, très souvent quand on travaille sur le Coran, il faut revenir aux racines et au sens des racines arabes. Donc on ne peut travailler, ça il faut le dire fortement, sur le Coran que dans sa langue, historiquement, anthropologiquement, on ne peut pas travailler en traduction.
Oui, et de ce point de vue-là, comment on comprend du coup le passage coranique qui parle de celui qui aurait reçu son livre, son écrit, pas son livre, du côté, dans sa main droite,
absolument,
sera bien heureux, et celui qui l'aura reçu par derrière lui sera plutôt affligé.
Alors là, c'est la représentation de la première eschatologie coranique, c'est-à-dire l'eschatologie coranique, je dirais que c'est la première thématique importée dans le Coran. Alors, je vais peut-être parler un petit peu des éléments bibliques du Coran. Parce que j'ai commencé par parler du terrain et des fonctions vitales de ce terrain qui m'ont donné ces trois piliers, ce que j'ai appelé les piliers, qui sont en fait des fonctions sociales. Mais étant donné que la parole de réforme de Muhammad n'est pas reçue dans sa tribu, il essaie de convaincre ses oncles, c'est un verset de la sourate 26, « Andir ashirataka al-aqrabin », avertis ceux qui te sont le plus proches, c'est-à-dire avertis tes oncles, pour qu'ils portent ta parole au reste de la tribu. Les oncles apparemment ne répondent pas. Eh bien, Mahomet se trouve démuni, Mohammed se trouve démuni, et là, il a recours, son Dieu lui donne recours, dirais-je, à une thématique extérieure, qui est la thématique de l'eschatologie d'origine biblique. Et dans cette thématique de l'eschatologie d'origine biblique, il y a un jugement. C'est-à-dire que les hommes qui ne veulent pas entrer dans la bonne alliance, eh bien, ils vont être jugés après la fin catastrophique, non pas du monde entier, mais de leur monde à eux. La tribu est censée disparaître. Et disparaissant, elle va être soumise à un jugement. Et dans ce jugement, il y aura ceux qui auront bien agi et ceux qui auront mal agi. Et celui qui recevra la liste de ses actes, ce qu'on appelle son kitab, de la main droite, c'est celui... Alors, dans un premier temps, ira-t-il au paradis? Là, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. C'est que dans les passages les plus anciens du Coran, on a l'impression que le paradis n'est pas encore arrivé. Celui qui agit mal, lui, son lieu de punition est tout de suite défini. Ce n'est pas un lieu de flamme, comme on le croit à partir des traductions, c'est le lieu du désert solaire, où on brûle de la chaleur solaire, où la peau brûle et la peau s'épluche, et où on est assoiffé, et où on mange comme les chameaux, ça le Coran le dit.
La torture étant la soif ici.
La torture, le mot « adab », le tourment de l'enfer, c'est la torture de la soif. Quant au paradis, eh bien, dans un premier temps, il n'y a pas de paradis, en fait. Et l'homme qui a bien agi, qui reçoit son écrit, l'écrit de ses actes, de la main droite, il sera rendu à sa famille.
Heureuse.
Et il vivra heureux avec les siens.
On va passer, si vous voulez bien, Jacqueline Chabi, au deuxième volet de votre triptyque, celui de la guidance. Je rappelle que nous sommes sur France Culture, dans l'émission « Questions d'islam », « Questions au pluriel », avec Jacqueline Chabi, professeure honoraire des universités, sémitisante, arabisante, agrégée d'arabe et doctoresse lettres. Et vous êtes historienne médiéviste, et donc nous sommes ensemble là pour parler du Coran, mais d'un point de vue anthropologique, en essayant de pouvoir, ou pas d'ailleurs, de dépasser la barrière ou le mur anthropologique, pour surtout commenter ensemble votre ouvrage « Les trois piliers de l'islam », paru aux éditions du Seuil. Alors, la guidance maintenant?
Bien, c'est une notion tout à fait fondamentale. Et je dirais, plus que pour quiconque, pour les Mécois. Puisque les Mécois sont forcément obligés de voyager pour survivre, ne serait-ce que pour s'approvisionner. Pour aller dans la montagne de Taïf, vous pouvez aujourd'hui regarder sur Internet les superbes photos et la route en lacets qui monte vers Taïf. Pensez aux sentiers dans la rocaille qui montait dans cette montagne. La Taïf est à 1400 mètres. On se rend pas compte des hauteurs de cette partie de l'Arabie occidentale. Le plus haut sommet de la chaîne côtière est au Yémen, 3666 mètres. Vous avez des villes de l'Arabie occidentale qui sont à plus de 2000 mètres. Et la ville de Taïf est à 1400 mètres. À côté de Médine, vous avez un volcan qui atteint 2000 mètres. Donc il faut se rendre compte de ce relief extrêmement accidenté et des difficultés du parcours. Non seulement il y a les difficultés du parcours dans ce terrain hostile, mais également quand on veut faire des trajets plus longs, le risque, eh bien, c'est de perdre la piste. Et je dirais que ça, c'est une obsession qui transparaît, c'est une obsession de ce monde, de ce milieu humain qui transparaît dans le Coran. Et là, alors que les Mécois sont des sédentaires qui doivent se déplacer, mais pas si loin que ça, je dirais que c'est l'obsession du monde nomade qui s'inscrit dans le Coran avec les images les plus puissantes, parce que c'est là qu'on ressent, en milieu nomade, le danger le plus fort quand on fait des longs parcours. Est-ce que mon voyage me permettra d'arriver à bon port? Est-ce que je ne vais pas rencontrer un oued rugissant? Est-ce que je ne vais pas rencontrer une tempête de sable? Et donc, cet imaginaire qui produit des images d'une violence extrême et qui était vécu violemment par les gens de ce milieu, apparaissent dans le Coran, je dirais, pour lui donner un écho face aux gens de cette terre et répondre à leurs angoisses et répondre à leurs phobies.
Et de ce point de vue-là, le prophète appelle à adhérer à l'action et à la bienveillance et au bienfait d'un Dieu secourable qui guide justement ces Mécois.
Alors, le Dieu mécois est le Dieu secourable. Et si on fait dans le texte du Coran le compte de toute la terminologie qui est liée à la piste, eh bien, on sera étonné de voir la prolifération de vocabulaire qui est liée à la piste. Et il y a un mot dont on ne sait plus qu'il est lié à la piste, et c'est tout à fait étonnant, c'est le mot « umma ». Le mot « umma », aujourd'hui, pour nous, c'est la communauté musulmane. Mais on oublie les sens anciens et les sens coraniques de ce mot. Parce que la racine « umma », le mot « umma », il revient à une racine qui donne l'idée de se guider et d'arriver à bon port. Et en fait, si vous prenez les sources lexicographiques médiévales, comme le grand dictionnaire médiéval « La langue des Arabes »,« Lisan al-Arab », vous trouvez dans ce dictionnaire que le mot « umma » il a plusieurs sens. Et que le sens premier, c'est la piste qui mène à bon port. Pas la piste toute seule, la piste qui permet d'arriver au bout. Et le même mot signifie le guide qui permet d'emprunter cette piste. Et c'est le sens d'une expression qui est si mal traduite, « Abraham est une umma ». Et alors là, les traducteurs qui ne font pas d'anthropologie se sont arrachés les cheveux. Abraham est une communauté, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas du tout une communauté dans ce cas-là. Abraham est un bon guide. Et la umma, c'est aussi, troisièmement, le groupe bien guidé sur la bonne piste par un bon guide.
Oui, d'où la notion de matrie pour certains, parce qu'on dit que la patrie a un lien avec la topographie, la géographie, la terre. En revanche, la matrie transcende ces clivages.
Je ne sais pas si j'irais dans ce sens, parce que les termes de parenté en arabe sont en fait des bilitères anciens. Il y a deux consonnes au départ, il n'y en a pas trois. Je ne pense pas que j'irais dans ce sens, en liant la guidance à la féminité et à la mère, hein, puisque « oum », c'est la mère. Je pense que c'est une coïncidence, je ne pense pas qu'il y ait une relation.
Et que pensez-vous de la mère du livre au Moulkiteb, parce qu'on traduit mal aussi? Pour cet écrit qui serait dans un empyré céleste.
Ben c'est peut-être à ce moment-là, est-ce qu'il faut traduire par la mer? Je m'interroge. Est-ce que plutôt il ne faut pas aller vers l'idée de l'écriture qui donne une guidance? Est-ce que la racine amma donne cette idée très forte de guidance?
La racine bilitaire, quand on triture, quand on rajoute aussi une troisième lettre, ça va donner imam qui est le guide.
Alors, imam, le guide, mais alors là, je le raccrocherai à umma, hein, le guide. Mais c'est bilitaire sémitique, puisque en hébreu, vous avez ummot, vous avez abot, vous avez ces termes de parenté. Je ne suis pas sûre que pour l'Arabie, en tout cas, pour l'arabe, on puisse les raccrocher à ce thème de la guidance. Alors, puisque la mer ne voyage pas. Hein. La mer, elle est dans un espace protégé qui reste un espace sédentaire.
Est-ce que les Mécois, très tôt, ont compris que la prédication mohammedienne était, pardonnez-moi la question ainsi, était dans leur intérêt s'ils devaient adhérer à son discours, à sa prédication, c'est pour être guidés et secourus, ou est-ce que leur attachement au culte des ancêtres a fait en sorte qu'ils ne voyaient dans ce qu'il leur racontait que ce qu'il leur racontait, il étant le prophète de l'islam, plutôt un possédé, un poète mal inspiré?
Effectivement, les Mécois n'ont absolument pas adhéré au message de Mohammed. Le Coran en témoigne de façon, le Coran de période mécoise en témoigne de façon éloquente. Il a été considéré comme étant inspiré par un djinn malfaisant, donc il est qualifié de possédé, Majnoun. Il a été traité de sorcier. Il a été traité de poète mal inspiré, il a été traité de devin également mal inspiré, et finalement, étant donné que devant cette résistance de la tribu qui voulait rester, et le Coran le dit de façon explicite à la tradition de ses pères, « Mahoua alayhi abauna », ce que suivent nos pères, tu veux nous détourner de la voie de nos pères, mais quel crime abominable, nous ne pouvons pas te suivre. Eh bien finalement, étant donné que le Coran, pour répondre à cette hostilité, produisait des récits dont certains étaient d'origine biblique, les histoires de Moïse, les histoires d'Abraham, les histoires de Noé, il a été accusé d'avoir un informateur. Et ça, ça se trouve, je crois qu'il y a la sourate 24 et puis une autre, peut-être la 33, je ne me rappelle plus. C'est un formateur, et alors là, cet échange semble réel, puisque le Coran répond, mais moi je vous parle en pur arabe, et celui auquel vous faites allusion, c'est un ajami. Ajami, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas natif de langue arabe native. Et donc, comment voulez-vous que la parole que je produis, qui est en bel arabe, puisse venir de cet individu? Et à la suite de ça, Mahomet va être banni de sa tribu.
Oui. Est-ce qu'ici, le mot arabe renvoie à la souche, à l'ethnie arabe, ou au fait simplement de pouvoir bien s'exprimer, tenir un discours explicite, éloquent et clair?
Un arabe considère qu'un non-arabe sera toujours incapable de produire, je dirais, un arabe. Le Coran a des problèmes avec les poètes, mais je dirais un arabe de poésie. Puisque la langue arabe, l'essence même de la langue arabe, c'est la poésie orale, c'est la poésie improvisée, c'est la belle langue. Ou le beau discours de l'orateur tribal. Celui qui va mettre en évidence les vertus de sa tribu. Donc la belle langue est considérée comme... Elle est ethnicisée d'une certaine façon. Et il faut être de naissance arabe pour être censé pouvoir produire un discours en bel arabe.
Ma question est portée sur le vocable et le terme arabe en tant que tel qui renvoie simplement à l'éloquence et à bien s'exprimer. Le Coran a un problème avec les poètes, sauf peut-être avec le poète du prophète Hassan qui est considéré comme son porte-parole.
Tout à fait. Le prophète n'a pas pu se passer de poète, mais évidemment, étant donné qu'il avait été accusé lui-même d'être un poète mal inspiré, il a un petit compte à régler avec les poètes, qui serait à la fin de la sourate 26, il me semble bien.
Alors Jacqueline Chabi, si vous voulez bien, et pardon, nous n'avons pas consacré beaucoup de temps et l'émission arrive à son terme, ben pour le troisième volet, qui est celui du don, comment expliquez-vous que finalement le don est aussi un troisième pilier de cette lecture anthropologique sur laquelle s'articule la révélation coranique?
C'est une fonction indispensable à la survie des hommes. Donc, dans le monde tribal, il n'y a pas d'assistance étatique, puisqu'il n'y a pas d'État. Donc, la solidarité, le don de solidarité, est un des constituants fondamentaux de la société tribale. Et donc, la divinité coranique, je dirais, ne peut échapper aux fonctions qui font vivre sa société. Et donc, le dieu coranique, de même que le chef tribal, doit être donateur. Alors, les dons coraniques sont de deux sortes. Il y a le don eschatologique, c'est-à-dire le don du paradis, mais là, eh bien, je dirais que Mohammed a eu du mal à être suivi. Par contre, le dieu coranique, en tant que créateur, c'est celui qui donne tout ce qui fait vivre les hommes. Il leur donne la vie, il leur donne la subsistance, il leur donne des fils. Donc, le don ici et maintenant est un constituant fondamental de la parole coranique, parce que c'est aussi un constituant fondamental de la société des hommes du Coran à la première époque.
Ma question nécessitera assurément une autre émission, mais je ne m'empêche pas de vous la poser. Il y a, le néologisme est de vous, une rahmanisation du Dieu du Coran. C'est le Dieu miséricordieux, le Dieu de bonté et de miséricorde.
Le Dieu bienfaisant. Le Dieu bienfaisant comme le serait un parent utérin. Puisque les Ulul Arham, ce sont les parents les plus proches, puisqu'ils sont fils du père, ça c'est normal, mais aussi de la même mère.
Voilà, c'est le dieu matricien, matriciel, comme disent certains, mais ce n'est pas une bonne traduction
non plus.
Merci infiniment, Jacqueline Chabi, merci de nous avoir instruits par à la fois vos propos et aussi le commentaire de votre livre « Les trois piliers de l'islam » paru aux éditions du Seuil. Lecture anthropologique du Coran. C'était Question d'Islam. Et vous retrouverez, chers amis auditeurs, les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Dominique Campetissa. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Alain Joubert. Et la réalisation est toujours avec notre ami Franck Lilin.
Thank you.